France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, spécial Reynaldo Hahn en compagnie du musicologue Philippe Blais, probablement l'homme au monde qui connaît le mieux ce compositeur et son œuvre très riche et variée, comme on va le voir bien au-delà des opérettes que nous chérissons. Philippe Blais à ce micro dans une dizaine de minutes. En fin d'émission, une chronique de Martin Péné sur le style musette dans la chanson française. Et en préambule, un petit tour au Far West où les filles apparemment ont un sacré caractère.
On n'a pas dans la pampa une école primaire. Tous les trucs que l'on apprend, ça vient tout naturellement. On est nul pour le calcul, mais pour faire une affaire, on sait bien compter l'argent, ça vient tout naturellement. De même, on peut être un bon nourrisson sans que l'on ait besoin de prendre des leçons. Ainsi, pour téter le lait de maman, je savais le trouver sans aucun renseignement. Tout naturellement. Je vous jure, sans professeur, comment on chipe les confitures, ça vient tout naturellement. Nous étions à la maison six enfants, magnifique. Papa disait les enfants, ça vient tout naturellement. Sans chercher pour me moucher, j'ai trouvé la méthode. Avec les doigts simplement, ça vient tout naturellement.
Ça vient tout naturellement.
Les garçons ont des boutons quand les arbres bourgeonnent. Il paraît qu'à 18 ans, ça vient tout naturellement. Comme d'un exploit quand on fait un petit tour sur les chevaux de bois. Mais c'est moins facile et moins amusant quand il faut se tenir sur un cheval pur sang. Tout naturellement.
Tout naturellement.
Quand bébé condorlotte fait tout en souriant, pipi dans sa culotte, ça vient tout naturellement. C'est pas beau de dire des mots qui se terminent en merde. Pourtant, à certains moments, ça vient tout naturellement. Ça vient tout naturellement.
Et je suis sûr que certains d'entre vous l'ont reconnu, Lili Fayol, grande vedette qui était un petit peu, on peut dire, l'ancêtre d'Annie Cordy. Lili Fayol qui avait connu de très grands succès comme la Canne du Canada, mais qu'on vient d'entendre ici dans Annie du Far West, grand succès au Théâtre du Châtelet en 1950. L'histoire donc d'une fille qui joue du pistolet. Et voilà, c'est l'occasion, je vous l'ai dit la semaine dernière, de vous faire entendre les versions françaises de quelques comédies musicales américaines qu'on a tendance à donner aujourd'hui en version originale en anglais. Les adaptations françaises sont souvent très bonnes. Annie du Far West au Châtelet avait connu un immense succès, ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs d'aimer la version originale d'Irving Berlin pour New York en 1946 avec ce fameux duo et notamment la voix d'Ethel Merman.
And now, little lady, if you'll kindly step up to the parapet, I'll give you a lesson in marksmanship.
You couldn't give me a lesson in long distance spitting. Anything you can do better. I can do anything better than you.
No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can. Yes, I can.
Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you.
No, you're not.
Yes, I am.
No, you're not.
Yes, I am.
No, you're not.
Yes, I am. Yes, I am. I can shoot a partridge with a single cartridge.
I can get a sparrow with a bow and arrow.
I can live on bread and cheese.
And only on that?
Yes.
So can a rat.
Any note you can reach, I can go higher.
I can sing anything higher than you.
No, you can't.
Yes, I can.
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 No, you can't.
Yes, I can. anything you can buy, I can buy cheaper. I can buy anything cheaper than you.
50 cents?
40 cents.
30 cents?
20 cents.
No, you can't.
Yes, I can. Yes, I can.
Anything you can say softer.
I can say anything softer than you.
No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can. Yes, I can.
I can drink my liquor faster than a flicker.
I can do it quicker and get even sicker.
I can open any safe.
Without being caught?
Sure.
That's what I thought, you crook.
Any note you can hold, I can hold longer.
I can hold any note longer than you.
No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can. Yes,
no, you In my coat.
In your vest.
In my shoe.
In your hat.
No, you can't.
Yes, I can. Yes, I can.
Anything you can say faster.
I can say anything faster than you.
Again. I can jump a hurdle.
I can wear a girdle.
I can knit a sweater.
I can fill it better.
I can do most anything.
Can you bake a pie?
No.
Neither can I.
Anything you can sing sweeter.
I can sing anything sweeter than you.
No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Oh, yes, I can.
No, you can't.
I can.
No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can. Yeah.
Ah, c'est difficile de se comprendre entre les hommes et les femmes. Je pense que même si vous n'êtes pas anglophone, vous l'avez saisi dans cette chanson extraite d'Annie Get Your Gun, interprétée par Ethel Merman et Ray Middleton en 1947. Et avant de retrouver mon invité, encore mes petites emplettes de la semaine. Ça, c'était un peu par hasard, en fouillant dans ma discothèque, je suis tombé sur cette merveille d'un compositeur que je trouve souvent un peu sous-estimé, et bien qu'il s'appelle français, les Français ne l'aiment pas, à mon sens, à sa juste valeur. Il s'agit de son concerto pour piano de 1937, qui suit de 3 ans le concertino qu'il avait un peu rendu célèbre. Mais ce concerto, c'est une vraie petite merveille, comme vous allez pouvoir en juger tout de suite dans le merveilleux donc final.
Thank you.
Le final du concerto pour piano et orchestre de Jean Français, interprété par sa fille d'ailleurs, Claude Français, et c'est Jean Français lui-même qui dirigeait l'orchestre de Radio Luxembourg.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et aujourd'hui, nous allons retrouver, si j'ose dire, un de nos vieux amis, Monsieur Reynaldo Hahn, qui est un habitué de cette émission. Même s'il n'y est jamais venu en personne, il y est souvent en musique, avec notamment, bien sûr, ses opérettes. Mais Reynaldo Hahn n'a pas composé que des opérettes, loin de là. On va le voir avec mon invité, qui consacre sa vie et ses travaux à faire connaître l'ampleur extraordinaire, justement, de l'œuvre de ce musicien, Reynaldo Hahn. Et donc, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Blé.
Il y a de la lune au bord du toit qui est ronde. Il y a de la femme chez lui, chez toi qui est blonde. Il y a du blé dans les moissons qui lèvent.
Il y a de la flamme au cœur des garçons.
Il y a de l'amour dans ce soir si doux qui flotte. Du jupon un peu par toi qui flotte. Il y a d'oiseaux dans les maisons. Il y a de la fille sur les gazons. Et des amants dans les buissons. Mets des citrons. Mets ton palmier
dans ton panier.
Mets tes bananes
dans tes basales.
Tes noix de coco
dans ton château.
Gardez vos pieds, gardez la casse. Là, le 12e hussard qui passe.
Là, le 12e hussard qui passe.
Moi, je m'en fous, moi, je m'en fous. J'ai chez moi ma petite bise. Moi, je m'en fous, moi, je m'en fous. Ma bise, ma noix chez nous.
Moi, je m'en fous, moi, je m'en fous. J'ai chez moi ma petite bise. Moi, je m'en fous.
Et c'était bien sûr Ciboulette, chantée par Jory Bouet dans un enregistrement historique et probablement le meilleur de cet ouvrage. Bonjour Philippe Blé.
Bonjour bon auditeur.
Vous n'avez rien contre Ciboulette?
Absolument pas.
Vous êtes allé la voir à l'Opéra Comique?
Je suis allé la voir plusieurs fois à l'Opéra Comique. Simplement, il n'y a pas que Ciboulette.
Il n'y a pas que Ciboulette, ça va être notre sujet. Mais ouais. Quand même, restons deux secondes à ce merveilleux petit... Cette chanson de route, hein, c'est, je crois que c'est le nom de ce passage. Il y a comme ça ce jeu entre la soliste et les chœurs. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la musique de Reynaldo Hahn, qui est souvent très, très finement menée.
Notamment dans Brummel, nous en parlions à l'instant hors micro. Je crois que c'est quelqu'un qui veut construire de grandes plages musicales dans l'opérette. Ouais. Un petit peu comme Offenbach faisait dans ses finales. Et d'ailleurs, il reprend dès Ciboulette ces longs finales d'opérette, extrêmement construits, extrêmement rythmés, et dans lequel le chœur, justement, joue également sa place et peut intervenir à de courts instants.
Voilà, on sent qu'il a en tout cas une jubilation à écrire pour l'ensemble de voix qui répond et qui ponctue
l'action. Disons qu'il y a une, Reynaldo Hahn a une vision architectonique de l'opérette. On n'a pas l'habitude d'envoyer ces mots là pour Hahn et pour l'opérette, mais ce sont des œuvres construites.
Alors justement, bon, l'opérette, c'est vrai que de par la nature même de cette émission, évidemment, elle est toujours ici en avant, et notamment celle de Reynaldo Hahn dont j'ai souvent parlé. Pourtant, on pourrait dire c'est presque un paradoxe que Reynaldo Hahn aujourd'hui est connu dans le monde entier, en tout cas en France, principalement par cette œuvre Ciboulette, qui au fond n'est qu'une œuvre un petit peu marginale ou anecdotique dans l'ensemble de sa production.
C'est vrai, c'est une œuvre de commande à laquelle il ne croyait pas vraiment, puisque le soir de la Générale, il était allé au cinéma. Oui, et qu'il a appris le succès en se dirigeant vers le théâtre, en sortant du cinéma. C'est tout le paradoxe.
Il ne se voyait pas du tout comme un compositeur d'opérette.
Je pense que Reynaldo Hahn aurait préféré rester par la Carmélite et par Nausicaa.
Mais
me le disait Gérard Condé, qui est un des auteurs du livre que j'ai dirigé chez
collectif,
Actes Sud, un compositeur ne choisit pas les œuvres par lesquelles il restera. Et ce ne sont pas forcément les œuvres sur lesquelles lui-même avait le plus misé.
Mais en même temps, probablement, le succès de Ciboulette l'a orienté davantage qu'il ne l'aurait fait vers ce genre, au point d'en écrire quand même 5 ou 6 jusqu'à la fin de sa vie.
Presque une dizaine. il avait quand même, dans sa jeunesse, écrit des choses un petit peu extravagantes, notamment une opérette de salon qui s'appelait Le Phoque.
Ah bon?
Ou Agénor, c'est l'histoire d'un phoque finlandais.
Ah bon?
Et qui est une œuvre en fait de potage qu'il a écrit avec d'autres étudiants du conservatoire. Mais à l'époque, on construisait comme ça des petites œuvres uniquement pour des salons entre soi, et on parodiait parfois des grandes œuvres dans ses œuvres. Et notamment dans cet Agénor, il y a un air qui parodie Mignon. Il y a un grand air du phoque qui est « N'oublie pas le pays où fleurit le glaçon
». Alors là, effectivement, on est déjà dans l'opérette et l'opéra.
Donc, vous voyez, il y avait quand même un germe de
Et puis dans son
fantaisie.
Amour d'Offenbach également,
tout
bien
à
sûr.
Fait.
Mais deuxième question, d'ailleurs, qui va de pair avec la première, ce qui m'a toujours frappé à propos de Reinald Hahn, c'est quand on regarde au fond les livres d'histoire de la musique, les anthologies de la musique française, comme il en est paru beaucoup au milieu du XXe siècle, qui font un peu un panorama des compositeurs. Reinald Hahn n'est jamais mis tout à fait au premier plan comme un compositeur à part entière, contrairement à ses contemporains, Florent Schmitt, Ravel, Roussel, etc.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'il a toujours été considéré par la musicologie, au fond, plus comme un personnage que comme un compositeur?
Oui, c'est très curieux, alors que lorsqu'on dépouille la presse de l'époque, comme je l'ai fait de nombreuses fois, on se rend compte que Reinald Hahn est extrêmement présent dans la presse. C'est un personnage de la vie musicale.
Comme compositeur, à travers la
critique
musicale.
Comme compositeur, comme chef d'orchestre. Je pense que cela vient du fait qu'il n'a pas occupé de poste officiel. Il n'était pas pris de Rome, il n'était pas professeur au conservatoire, donc il n'a pas eu d'étudiant, d'une certaine manière. le fait en plus qu'à partir des années 20, il s'oriente vers l'opérette, donc un genre considéré un petit peu comme mineur et secondaire, je pense, a contribué à cette position un petit peu hors histoire de la musique. Mais je pense que, à défaut d'écrire une contre-histoire de la musique, pour parodier Michel Onfray, il faudrait écrire une autre histoire de la musique, et qui tiendrait compte, comment dire, du poids des compositeurs dans leur temps. Non pas seulement vu de notre temps, c'est-à-dire souvent... avec uniquement la vision de ceux qui ont apporté quelque chose dans l'écriture, dans le langage, donc une vision un petit peu trop innovatrice de la musique.
Oui, bien sûr. Alors, donc, dans ce cas-là, on redécouvrirait un catalogue immense, qui touche à tous les genres.
Plus de 200 opus, où il y a des oratorios, de la musique de chambre, bien sûr des mélodies, presque 6 opéras. Également.
Alors voilà ce qu'on va justement peut-être passer un petit peu en revue ce matin. Je vous propose pour commencer un petit retour en arrière, si l'on peut dire, dans la jeunesse de Reinald Hahn, même si cet enregistrement c'est déjà un monsieur d'un certain âge, c'est dans cette jeunesse où il chantait déjà en s'accompagnant au piano justement les opérettes d'Offenbach.
Les charbonniers, les fariniers ont le même sac, le même grand chapeau. Les charbonniers, les fariniers se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais pour celui qui sait bien voir, il y a un détail très important. Il y a un détail très important. C'est que le charbonnier est tout noir, et que le farinier est tout blanc. Les fariniers sont bons enfants, tout blanc. Oui, le farinier est tout blanc, les fariniers sont bons enfants. J'ai connu une petite femme qui était la femme d'un charbonnier, et la même petite femme avait un amant qui était farinier. Son mari venait pour l'embrasser, puis c'était le tour de son amant. Elle passait sa vie à se brosser pour n'avoir pas de désagrément. Car le charbonnier est tout noir, et le farinier est tout blanc, les fariniers sont bons enfants, tout blanc. Oui, le fariniers tout blanc, les fariniers sont bons enfants. Un homme d'un vrai mérite aimait une femme indigne de son hommage. Quand il apprit qu'elle le trompait, il l'en aima bien davantage. Que voulez-vous faire? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand on aime quand même. Il faut bien en passer par là. Que voulez-vous faire? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut bien en passer par là. La vertu, c'est un capital, on l'a dit et je le répète. Je connais des femmes, et pas mal, qui non seulement ont tout perdu, intérêt et capital, mais qui sont absolument criblées d'aides. Que voulez-vous faire? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand on aime quand même. Il faut bien en passer par là. Que voulez-vous faire? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut bien en passer par là.
Le choix par Reynaldo Hahn de deux petites œuvres peu connues hein, d'Offenbach qu'il chante donc, oui. En s'accompagnant lui-même au piano. C'était son habitude, Philippe Blais.
Oui, alors cela nous donne une idée un petit peu de l'interprète de salon qu'il a été, du chanteur de salon.
Voilà, auquel vous avez consacré d'ailleurs un certain nombre de pages hein, dans ce livre passionnant chez Actes Sud, Reynaldo Hahn, un éclectique en musique sous votre direction, livre collectif, mais où vous avez écrit plusieurs articles et aussi d'ailleurs un article sur les enregistrements sonores de Reynaldo Hahn. C'est vraiment, pour ses contemporains, c'était peut-être l'image qui venait en premier, justement, cet homme qui s'accompagne en chantant au piano.
Je crois que c'était pour les contemporains un petit peu une manière d'entrer dans les salons de l'époque à travers le disque.
Oui.
Puisque ces enregistrements se trouvaient dans les fameuses urnes qui avaient été ensevelies à l'opéra par la firme EMI à l'époque. Oui. Et donc, on trouve Reynaldo Hahn à côté des plus grands chanteurs de l'époque, ce qui est un petit peu surprenant. Mais je pense qu'on voulait conserver justement à côté du chant lyrique, ce chant de salon, ce chant théâtral, et on l'a vu avec Offenbach, où l'interprète doit recréer une sorte de petite scénette dans un milieu intime.
Mais il n'était pas le seul à faire ça, vous voulez dire? C'était une tradition
C'était une tradition de chanter des mélodies dans les salons.
Oui.
Blanche Selva s'accompagnait aussi également au piano, donc il n'était pas le seul à s'accompagner.
En tout cas, voilà un des très nombreux enregistrements. Ouais. Finalement, il y a pris goût puisqu'il a fait beaucoup de disques tout au long de sa vie.
Oui,
de sa musique et de la musique des musiciens qu'il aimait.
Oui, tout à fait. Il y a aussi des disques où il est comme chef d'orchestre. Malheureusement, on a perdu le fameux enregistrement de Mireille. Enfin, on a quelques bribes qui a été enregistré en 1941 sur disque Piral, mais malheureusement ce sont des disques qui se sont mal conservés, donc aux arènes d'Arles à l'époque. Voilà. Mais on a par exemple ces extraits du Marchand de Venise en 1935.
Alors d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure. Philippe Blais, je le précise pour les auditeurs, vous êtes conservateur en chef à la Bibliothèque nationale de France,
voilà.
un poste important, et vous êtes donc tourné depuis votre plus jeune âge vers la recherche musicologique. Et qu'est-ce qui vous a conduit à la musicologie et de la musicologie à Reynaldo Hahn?
Alors la musicologie, j'ai été étudiant au conservatoire. J'ai appris aussi.
Auprès d'Yves Gérard, notamment.
Alors, auprès d'Yves Gérard, ça c'était au Conservatoire de Paris, bien sûr. Donc, Yves Gérard, évidemment, était aussi un défenseur de la musique française, puisque c'est un grand spécialiste de Saint-Saëns. Mais à l'époque, j'ai dû inventorier le fond de manuscrits qui se trouvait salle Favart, donc à l'Opéra Comique à l'époque, avec mon collègue Hervé Lacombe. Et nous sommes tombés sur le manuscrit autographe de L'île du rêve de Reynaldo Hahn.
Qui était toujours à l'Opéra Comique.
Qui était resté à l'Opéra Comique. Et nous ouvrons ce manuscrit, et le premier mot que nous lisons en haut d'une page, c'est « Proust assis devant moi, tristesse vague et profonde ».
Ah oui, c'est impressionnant.
Ça datait en fait du séjour qu'il a fait au château de Réveillon en Seine-et-Marne, chez Madeleine Lemaire, à l'automne de 1894, et au moment où il était en train d'orchestrer l'île du rêve. Et c'est à ce moment-là que commence sa liaison avec Marcel Proust.
Avec Marcel Proust. Voilà. Il est où aujourd'hui ce manuscrit?
Ce manuscrit se trouve aujourd'hui à la bibliothèque de l'Opéra, avec l'ensemble du fond de l'Opéra Comique.
L'ensemble du fond de l'Opéra Comique. Voilà. C'est à partir de là que vous avez décidé de consacrer vos recherches personnelles principalement à Réveillon. Reynald Dohan?
Bien sûr, puisque par curiosité, donc je me suis procuré le chant et piano de L'Île du rêve. J'ai commencé à lire ça au piano et le coup de foudre a été immédiat.
Voilà, alors on va y revenir à L'Île du rêve, mais aujourd'hui c'est plus que ça, c'est tout Reynaldo qui vous intéresse.
Tout à fait.
Vous allez nous en faire un grand ouvrage.
Alors je prépare une monographie chez Fayard qui doit paraître à la fin de 2017, donc pour le 70e anniversaire de la mort de Reynald Dohan, mais j'ai eu l'occasion de diriger ce colloque à Venise en 2011 qu'a organisé le Palazzetto Bruzane et qui est à l'origine de cet ouvrage chez Actes Sud. Donc collabore une dizaine de musicologues des plus sérieux, chacun ayant apporté son savoir à la connaissance de Reynald Dohan. Je voulais, si vous voulez, décloisonner Reynald Dohan aussi de mes propres recherches. Ouais. Je voulais pas que ça apparaisse comme une obsession personnelle. Et je tenais à ce que d'autres musicologues écrivent également sur le sujet.
Évidemment, Reynald Dohan, on peut dire, vous avez cité Proust à l'instant, mais en fait, c'est son point fort et son point faible à la fois.
C'est comme les salons. C'est la voie d'accès la plus facile.
Voilà, parce que comme tout le monde est proustien, tout le monde s'intéresse forcément un peu à Reynald Dohan, mais tout le monde est tenté de réduire Reynald Dohan à l'ami de Proust.
Oui, mais en fait, comme l'a montré Luc Fraisse dans un article extrêmement brillant de cet ouvrage, l'influence sur Proust est beaucoup plus profonde que ce que l'on croyait. C'est-à-dire, Reynald Dohan n'apparaît pas dans La recherche du temps perdu. En revanche, Reynald Dohan et comment dire, la personne auprès de qui Proust a confronté ses idées et qui avait justement l'assise intellectuelle et esthétique pour renvoyer à Proust des arguments opposés à ses idées, puisqu'il n'était pas d'accord sur Péléas, sur l'esthétique musicale et même sur la vision de la musique. Anne a une vision de la musique extrêmement classique, au sens du classicisme français. Et Proust a une vision beaucoup plus mystique, beaucoup plus romantique et symboliste.
C'est un Wagnérien,
c'est un Debussyste.
Alors, on va écouter un certain nombre d'extraits de l'œuvre de Reynald Dohan, Philippe Blais avec vous, que vous avez d'ailleurs choisi pour des raisons précises. À commencer, alors justement, on laisse de côté les mélodies les plus célèbres, qu'on entend toujours, les chansons grises, et même peut-être les études latines. Là, pour un recueil sans doute moins fameux, ou en tout cas moins repris par les chanteurs, Les Feuilles blessées.
Recueil de 1907. Oui. C'est un des derniers recueils de Anne, puisqu'après la guerre de 14, il n'a plus écrit de mélodie. Il y aura encore les Five Little Songs qu'il écrira pendant la guerre, alors qu'il est au front. Et justement, dans ces Feuilles blessées, on va entendre...
Sur des paroles de Jean Moréas.
De Jean Moréas, voilà. Et là, nous sommes vraiment dans l'épure, dans l'ascétisme, dans une toute autre vision de la mélodie.
Je t'embrasse.
Clémentine de Couture et Nicolas Chevreau dans cette mélodie Compagne de l'éther, hein, c'est le nom, avec ces recherches harmoniques extrêmement subtiles. Vous pouvez nous dire en deux mots.
Extrêmement
subtil,
puisqu'en fait c'est une assise en do majeur avec des emprunts à ré bémol mineur, à la dominante de ré bémol mineur.
Et ça finit avec un accord quasi atonal.
Quasi atonal, tout à fait, parce que au-delà de la neuvième, on arrive un petit peu à des sonorités atonales.
Voilà, en tout cas, merci Philippe Blais de nous faire découvrir cette mélodie, en plus par de jeunes interprètes. Hein,
qui extrêmement brillants, enfin en tout cas qui ont le souci du texte.
Je disais d'ailleurs en préambule, au fond, bon, peut-être paradoxalement, et ce n'est peut-être pas ce qu'il voulait, Reynaldo Hahn aujourd'hui est surtout connu du grand public par ses opérettes, mais malgré tout, les mélodies sont toujours restées au répertoire des grands chanteurs français et étrangers.
Hein. Oui, et un troisième recueil de mélodies vient de sortir aux éditions Le Duc Music Sales, qui rassemble en fait des mélodies éparses qui avaient paru dans différentes revues, et donc ont été rassemblées en recueil, et il y a là une dizaine de mélodies tout à fait intéressantes.
Même quand on ne s'intéressait pas tellement à Reynaldo, tout le monde a toujours été d'accord pour dire que c'était un des grands maîtres de la mélodie française.
Oui, à cause de son art de la prosodie.
Voilà, c'est ça.
Oui, là tout à fait.
C'est celui qui est le plus proche du texte, au fond, par rapport à Fauré, à Debussy.
Il y a eu des études comparatives extrêmement savantes
sur
la manière de mettre Verlaine en musique. Et nombre de musicologues reconnaissent à Hahn cet art de la prosodie incomparable par rapport à la poésie.
Alors, Philippe Blais, vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes arrivé à Reynaldo Hahn par L'île du rêve. Je voudrais peut-être qu'on évoque un ou deux de ses opéras qui ont beaucoup compté pour lui, mais dont il ne reste quasiment rien. L'île du rêve, c'est son premier opéra donné à l'opéra comique. Hein.
L'île du rêve est créée en 1898, donc avec le début de la première saison d'Albert Carré, le grand directeur de l'opéra comique, Albert Carré.
C'est-à-dire qu'au fond, Carré fait appel à Reynaldo pour commencer son règne, de même que Diaghilev fera appel à Reynaldo.
Ce qui montre la place qu'occupait Hahn à l'époque.
Oui.
Bon, certes, Massenet était derrière et soutenait Hahn, mais Messager était le directeur de la musique de Carré. Il ne connaissait pas Hahn à l'époque et Messager a été tout de suite emballé par cette œuvre. Et on peut quand même reconnaître à Messager.
La presse n'a pas été très tendre.
Après, c'est plus compliqué parce que c'est le problème un petit peu de la rivalité mimétique avec Messager. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent un petit peu trop, d'une certaine manière. Et Messager, je pense, a été un petit peu jaloux. Puisqu'il n'avait pas un caractère très facile. Mais Hahn, en revanche, dans ses articles, a toujours eu le plus grand respect
pour
l'œuvre de Messager, même si dans certaines correspondances, il reconnaît qu'il émet des réserves sur l'homme.
Alors, L'île du rêve, il a été remonté à Tahiti, sur les lieux mêmes où ça se passe, il y a quelques années, par l'orchestre de Cannes, je crois.
Oui, étiez. J'y étais, bien sûr. Nous étions tous sur la plage, avec comme décor l'île de Moorea, qui est en face de Tahiti. Et les représentations commençaient au crépuscule. Vous imaginez les couchers de soleil que nous avions comme décor.
C'est un bel opéra pour vous ?
C'est un... Comment dire ? Ça, la spontanéité des premières œuvres.
Oui.
Il y a quelque chose dans les premières œuvres que souvent on ne retrouve jamais. Et là, il y a une inspiration mélodique, une fraîcheur mélodique incomparable. C'est un petit peu, en plus, esthétiquement, l'intimité de la mélodie transposée à la scène.
Voilà. Alors, deuxième et troisième exemple, deux ouvrages. Alors, aussi où l'éclule du rêve, c'est Nausicaa et la Carmélite. Vous pouvez peut-être nous les resituer dans l'œuvre de Reynaldo Hahn.
Oui. Alors, avant, je voudrais rappeler que l'île du rêve va être donnée à Rochefort au mois de mai prochain. Excusez-moi, Benoît.
Ah ben, voilà. On le redira même
on
à
le
la
redira
fin,
après,
très
les 3 et 4 mai prochains à Rochefort. Enfin, voilà.
À Rochefort.
Donc, oui, au Théâtre de la Coupe d'Or, dans le cadre du festival Musique au pays de Pierre Loti, sous la direction de Julien Masmondé, avec une mise en scène d'Olivier Dénin.
Voilà. Alors ça, on le redira précisément tout à l'heure.
Et donc, il y a eu, après l'île du rêve, la Carmélite en 1902, donc la même année que Péléas et Mélisande, sur un livret de Catul Mendès. Et donc là, Hahn renoue un petit peu avec le grand opéra historique, puisque c'est l'histoire de Louise de Lavallière, donc la maîtresse en titre de Louis XIV, qui a fini par s'enfuir de la cour pour entrer au couvent.
C'était d'ailleurs frappant dans les écrits de Reynaldo Hahn, l'importance de Versailles, hein, qui est un lieu de référence de toute sa vie, on a l'impression.
Oui, ce qui montre son goût du classicisme.
Du classicisme et y compris dans le style de vocal de la Carmélite, qui a un côté très Lully.
Très Lully. Ah oui, il connaissait tout cela via sans doute l'édition Michaelis pour chant et piano des opéras de Lully. Et Reynaldo Hahn est quelqu'un qui incorpore la musique du passé, en quelque sorte, pour la recréer. Avec son inspiration.
C'est un peu l'exemple de son aîné et maître toujours revendiqué Saint-Saëns, quand même, d'une
Tout
certaine
à fait.
Façon.
Et je trouve que Reynaldo Hahn fait un peu la synthèse entre Massenet et Saint-Saëns, d'une certaine manière.
Ah bah on va écouter une page de la Carmélite, parce que là encore, comme pour l'île du rêve et comme pour Nausicaa, dont on parlera après, il n'y a pas d'enregistrement, malheureusement. Mais il y a quelques pages éparses, et là, c'est Guy Ferrand. L'ami...
Le compagnon de Reynaldo Hahn, à partir de la fin des années 20,
voilà.
Qui était un comédien et un chanteur.
Mais un bon chanteur.
Qui était un bon chanteur, oui. Voilà, mais à l'époque, le nombre de chanteurs étaient à la fois comédiens et avaient une technique.
Et donc, il a fait beaucoup d'enregistrements avec Reynaldo Hahn au piano, donc on peut imaginer que Reynaldo Hahn lui a donné vraiment les conseils pour obtenir exactement ce qu'il voulait.
Exactement.
Guy Ferrand et Reynaldo Hahn, donc dans cet extrait de la Carmélite, qui est vraiment une stylisation effectivement de la musique du XVIIe siècle.
Alors là, c'est un extrait d'un ballet de cour qui est incorporé dans la Carmélite,
voilà,
dans
le
ballet des
Nymphes. Hein,
voilà, une comédie lyrique dans le sens de pièce de théâtre en musique.
Voilà, mais qui était un genre qu'on montait plutôt à l'opéra comique, puisque Fortunio
est une comédie lyrique, oui, tout à fait. Oui, à l'époque, c'était un genre très usité.
Voilà, donc c'est le deuxième opéra
de Reynaldo Hahn, donc créé en 1902, la même année que Péléas et Mélisande.
Voilà.
Et bien entendu, Albert Carré poussera plutôt Péléas que la Carmélite.
Ça va
alors
pas
que les recettes,
les relations des deux hommes qui étaient déjà pas très bonnes apparemment.
Oh, il a quand même continué
Debussy et Reynaldo.
Ah oui, tout à fait. Je crois que c'est en fait Anne reconnaissait la profonde originalité de Debussy. Ouais. En revanche, il avait un problème avec l'homme. Oui, qui n'était quand même pas quelqu'un de facile, qui était un petit peu un ours, alors que Anne appréciait la politesse.
Le troisième ouvrage important est complètement oublié lui aussi, c'est Nausicaa.
Nausicaa, alors là nous sommes dans les années 20, oui. Nous sommes après la guerre. Là c'est l'inspiration antique, oui. Puisque donc c'est inspiré de l'Odyssée d'Homère, et ça a été redonné grâce à l'Oiseleur des Longchamps. En 2014, voilà. À Paris, et avec piano.
Comment vous le définiriez dans l'œuvre de Reynald Hahn? Comment vous le qualifieriez, vous, dans la hiérarchie des créations importantes et oubliées?
Oui, alors là, c'est vraiment l'inspiration antique. C'est plus dépouillé comme mélodie. Oui. Les gens seraient peut-être surpris. En fait, il y a beaucoup de recherches orchestrales. Ouais, voilà. Ouais, le problème, c'est que souvent, on entend ces œuvres accompagnées au piano. Et notamment pour Nausicaa, l'orchestration est extrêmement importante. Mais disons qu'au niveau vocal, on ne retrouve pas peut-être la même ampleur que la Carmélite. C'est plus réservé.
Voilà, en tout cas, trois ouvrages très importants pour lui, oui. Et finalement complètement éclipsés par le succès de Ciboulette et même de Mozart et des œuvres légères qui allaient suivre. Philippe Blais, alors, on reviendra tout à l'heure au lyrique, mais voyons donc un peu l'ampleur, vous disiez tout à l'heure, du catalogue de Reynald Hahn. 200 numéros d'opus, beaucoup de mélodies, mais aussi beaucoup de musique de chambre et de musique de piano. Hein.
Oui, tout à fait, et notamment ce grand recueil de 53 poèmes pour piano qui s'appelle Le Rossignol est perdu, oui. Et qui a paru chez Eugel au début de 1913, oui. Et qui est une sorte de journal intime de pièces en fait qu'il a écrites un petit peu pour lui à partir des années 1890.
Des pièces illustratives.
Des pièces illustratives, oui, puisqu'il y a plusieurs séries dont une qui s'appelle Orient. Et qui est inspiré donc par ses voyages en Afrique du Nord, en Égypte. Il y en a évidemment inspiré par Versailles et aussi par ses voyages en France. Et en fait, c'est une sorte de journal intime, mais recomposé, oui. Comme sait le faire Reynald Hahn, en recueil de pièces pour piano. Mais là, il nous livre une autre facette, beaucoup plus sombre, beaucoup plus élégiaque de lui-même.
Alors, on va peut-être écouter un extrait de ce Rossignol éperdu qui vient de sortir en disque d'ailleurs avec Billy Eddy.
Billy Eddy a réalisé un superbe enregistrement du Rossignol éperdu. Il a travaillé plusieurs années sur ce recueil pour s'imprégner vraiment de l'esprit de cette œuvre.
Vous avez choisi une pièce intitulée Héros caché dans les bois. Pourquoi cette pièce particulièrement?
Je trouve que la couleur de la pièce est bien représentative de l'ensemble du recueil, avec un titre un petit peu énigmatique. On va voir au début une sorte de danse lente, un petit peu, sur un rythme iambique, brève, longue. Et puis tout d'un coup, le chromatisme va arriver dans la partie centrale, un petit peu comme la montée du désir.
Thank you.
Héros caché dans les bois, un extrait de l'immense première suite qui constitue ce Rossignol éperdu. Première suite, Orient, Carnet de voyage, Versailles encore, donc ce sont les quatre volets de cette suite pour piano que vous aimez particulièrement, Philippe Blé. Moi j'avouerai personnellement un faible pour Le ruban dénoué, la suite de valse pour deux pianos qu'il a également écrite pendant la guerre, quelques années après.
J'ai fait des recherches d'une certaine manière sur le timbre du piano, là aussi, et sur le timbre de la valse. C'est presque une œuvre hypnotique, Le ruban dénoué.
Donc, on le disait, Reynaldo Hahn est un compositeur à part entière. Non seulement, ça n'est pas seulement l'opérette, mais ça n'est pas seulement la voix, c'est aussi la musique instrumentale. Alors, la musique de chambre, certes, mais surtout peut-être, et ça c'est vraiment pas connu, un ensemble très imposant d'ouvrages symphoniques, symphonies, ballets, concertos, etc.
Tout à fait. Donc, Le Dieu Bleu, créé en 1912.
Alors, arrêtons-nous un instant, oui. Dieu Bleu, parce oui. que, en somme, Diaghilev, oui. Arrivant avec les ballets russes à Paris, la première commande qu'il passe à un compositeur français, c'est Le Dieu Bleu qu'il demande à Reynaldo Hahn avec le jeune Jean Cocteau pour le livrer. Est-ce que c'était pour des raisons mondaines qu'il a passé une commande à Reynaldo Hahn et pour se faire des relations donc, dans les milieux riches que fréquentait Reynaldo?
Il est évident qu'il y avait une grande part d'opportunisme. Oui. Parce que la figure de Reynaldo Hahn ne représentait pas l'avant-gardisme que recherchait Diaghilev.
C'est ça.
En plus, bon, comme Le Dieu Bleu a eu un succès d'estime sans plus.
Vous avez regardé la partition?
Oui, oui.
Est-ce que c'est un ballet important?
C'est un ballet d'une vingtaine de minutes pour grand orchestre et qui commence avec un solo de flûte en sol qui rappelle un petit peu le Debussy et l'après-midi d'un faune, d'une certaine manière, mais bon, qui n'est pas du tout debussiste dans l'écriture, qu'à mon avis, on entendrait aujourd'hui autrement. Simplement, à l'époque, ça a été créé en même temps que Daphnis et Chloé de Ravel.
Et oui, autre solo de flûte d'ailleurs.
Voilà.
Extraordinaire.
Œuvre, chef-d'œuvre absolu. Et comme souvent, dans une saison, on retient l'œuvre phare. Et l'œuvre novatrice.
Et Diaghilev, n'ayant plus besoin de Reynaldo Hahn, l'a un peu laissé tomber, il faut
tout
dire.
Tout à fait.
Mais
oui.
Stravinsky en parle à quelques reprises dans ses entretiens.
Et Hahn est resté ami avec Nijinsky.
Avec Nijinsky
oui,
également.
Avec qui il a correspondu.
Alors donc ce ballet, Le Dieu Bleu, les concertos, il y en a également.
Alors,
un certain nombre.
Il y a un concerto pour piano, un concerto pour violon, oui. Et même un concerto pour violoncelle, mais qui est resté inachevé. Il y a aussi un autre ballet très important qui est La Fête chez Thérèse, qui a été lui créé en 1910 à l'Opéra et qui, lui, en revanche, a eu un énorme succès, qui restait au répertoire de l'Opéra pendant toutes les années 10 et toutes les années 20 aussi.
Alors, ce ballet, il s'appelle La Fête chez Thérèse. Oui. Et c'est important parce que chez Reynaldo Hahn, il y a, dans sa musique symphonique notamment, toujours un peu cette notion de fête et de divertissement. Là, c'est La Fête chez Thérèse. Il a écrit le bal de Béatrice d'Este. On va écouter dans un instant le divertissement pour une fête de nuit. On dirait que c'est quand même sa source d'inspiration pour écrire de la musique colorée et néanmoins de grande qualité et de grande recherche.
Oui, je crois qu'il est inspiré par les formes de danse, d'une certaine manière. Je crois que la chorégraphie l'inspire et lui permet d'écrire peut-être un type de musique un petit peu élancée, un petit peu justement dansée.
Voilà. Ouais. Ce sont donc là ces chefs-d'œuvre dans le genre symphonique, on peut dire. Il n'y a pas de symphonie à proprement parler.
Il n'y a pas de symphonie. Il y a aussi évidemment ce divertissement pour une fête de nuit.
Oui. Alors voilà.
Qu'il a écrit dans les années 30.
On va écouter maintenant une chose admirable.
Qui est un chef-d'œuvre d'orchestration pour flûte, saxophone, basson et cordes. Ensemble de cordes, piano et percussions.
Voilà, déjà.
Déjà, voilà.
Ça parle beaucoup.
Hahn adore les ensembles instrumentaux, un petit peu construits selon l'idée qu'il se fait d'un timbre global.
Oui. Voilà. Cette œuvre, donc divertissement pour une fête de nuit, elle a été créée pour quoi, pour qui?
Elle a été créée à la Société Philharmonique dans les années 30. C'est une suite d'orchestre, en fait.
D'accord. C'était pas réellement pour une fête de nuit.
Non,
chez
pas
ses
du
amis,
tout. Mais c'est une œuvre qui évoque un petit peu les fêtes de la Vienne du XVIIIe siècle et du XIXe. En fait, on part d'une sorte d'évocation du prince Esterhazy et on termine avec une évocation des valses viennoises à la Johann Strauss.
Alors, je sais pas si vous y êtes pour quelque chose, ça m'étonnerait pas, mais par chance, là, l'œuvre a été enregistrée. Voici. Pas très longtemps par l'ensemble Initium et l'Orchestre du Pays de Savoie.
Tout à fait, c'est un merveilleux disque donc qui remet à l'honneur toute cette musique instrumentale de Hahn. Il y a aussi le concerto provençal,
oui. Lui,
qui date des années 40 et qui est aussi extrêmement subtil dans son orchestration.
On va écouter donc le final de ce divertissement pour une fête de nuit, au moins la première partie de ce final, c'est un très vaste mouvement qui dure plus de 8 minutes, mais c'est vraiment une vraie découverte dont on vous est reconnaissant, Philippe Blais.
Thank you.
Voilà, et je vous invite à découvrir ce divertissement merveilleux dans le disque de l'ensemble Initium, qui est paru chez Timpani également
en 2015.
Voilà, Philippe Blais, grâce à vous, une très belle œuvre de Reynaldo Hahn à redécouvrir parmi toutes celles que vous mettez à l'honneur, et avec cette phrase qu'on entendait à la fin qui rappelait beaucoup le monde de Ciboulette.
C'est une sorte de jumelle de la valse finale de Ciboulette.
Exactement. Philippe Blais, un mot maintenant d'un ouvrage qui vous tient très à cœur, qui est le grand opéra de la fin de la vie de Reynaldo Hahn, enfin bon, 10 ans avant sa mort quand même, mais qui est Le Marchand de Venise.
C'est vraiment pour moi le chef-d'œuvre de Reynaldo Hahn, donc qui est un opéra dont
créé au Palais Garnier.
Créé au Palais Garnier en 1935 et qui est resté au répertoire jusqu'en 1950, puisque Denis Duval a chanté Le Marchand de Venise en 1950 dans une mise en scène de Max de Rieu.
Et qu'est-ce qui fait que c'est le chef-d'œuvre à vos yeux?
C'est un petit peu l'aboutissement de tout le savoir de Reynaldo Hahn sur le chant. C'est un petit peu une œuvre qui résume toute l'histoire du chant français, je dirais de Lully à Massenet.
Alors, vous avez choisi un extrait chanté par Martial Singer,
En 1935, donc c'est l'un des créateurs de l'œuvre.
On connaît plutôt les extraits avec Fanny Eldy et André Pernet.
C'est la même troupe.
Mais c'est cet air, plus précisément, qu'on va entendre,
Oui, c'est donc Portia. Chanté donc par Martial Singer au premier acte. Donc c'est l'air de Bassanio où il parle de son amour pour la belle Portia.
Ils sont longs, décrit ses charmes, ses appâts. Son nom, Portia, se ravissant. Portia, dès que l'on prononce ces accents tendres et chantants, ne semble-t-il pas qu'on annonce la naissance du printemps? Semble-t-il pas qu'apparaisse le front saint de Camélia, l'illusion de la jeunesse, Portia, Portia, quand on le murmure, n'entend-on pas les oiseaux chanter dans toutes les ramures et courir tous les ruisseaux? Ne devine-t-on pas les charmes quand Dieu jaloux multiplia pour que l'amour emplisse des armes? Du joyeux délire, et c'est déjà souffrir un peu dans ce nom, menace ou caresse. Vous entendez bien qu'il y a toute ma joie et ma détresse. Portia.
Martial Singer dans ce magnifique extrait du Marchand de Venise, remonté récemment d'ailleurs à Saint-Étienne dans une mise en scène qui ne respectait pas.
Merveilleusement musicalement, mais avec une mise en scène qui était un contresens absolu.
Voilà, malheureusement ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Il faut se préparer à d'autres mauvaises surprises, mais aussi d'autres bonnes, j'espère, pour la redécouverte de Reinhard Lehmann. 2017, c'est bientôt. Oui. Votre livre est donc, doit être très avancé. J'espère que votre éditeur n'écoute pas.
Il est assez avancé.
Vous serez bon.
Je serai à l'heure, ne vous inquiétez pas. Je serai bon pour l'anniversaire, dont le 70 ans de la disparition de Anne.
Ce livre sera un livre purement musicologique ou l'élément biographique, puisque c'est une vie tellement extraordinaire, il sera aussi important.
Il sera dans le style des grandes monographies de Fayard, c'est-à-dire il sera à la fois biographique et également il permettra d'analyser l'œuvre et de mieux la comprendre.
Le fameux journal de Reinhard Lehmann, qui est toujours à la Bibliothèque de l'Opéra, mais qui est protégé lui aussi, je crois, jusqu'en 2017.
Voilà, il y a un fonds Guy Ferrand, en fait, que Guy Ferrand avait légué à la Bibliothèque de l'Opéra, qui ne pourra être ouvert que lorsque Anne sera dans le domaine public, c'est-à-dire à partir de 2018.
Alors vous n'avez pas peur d'y trouver des choses dont vous auriez eu besoin pour votre livre ?
C'est un fonds de manuscrits musicaux. Et on y trouve les manuscrits des grandes œuvres comme Ciboulette, Le Marchand de Venise, etc.
Très bien. Bon, ben voilà du travail, du pain sur la planche pour les musicologues. On va se quitter, Philippe Blais, avec Malvina, qui a été créée simultanément avec Le Marchand de Venise, Reinhard Lehmann, à la fois au Palais Garnier et à la Gaîté Lyrique.
On lui a d'ailleurs assez reproché. Il y a même un article de presse qui dit qu'on entend du Anne, on entend du Anne partout dans Paris.
Ah oui.
Et qui parle de la Reynaldose, justement, qui se répand dans Paris.
Ben moi, j'aime bien la Reynaldose. J'en ai pas d'overdose, pas du tout. Et vous allez voir, ce merveilleux final de Malvina est aussi un grand moment de musique. Merci Philippe Blais.
Merci à vous.
À bientôt.
Je t'aime,
tu m'aimes,
elle m'aime.
Bonheur suprême,
dans le septième
ciel,
nous
planons.
Je t'aime,
tu m'aimes,
elle m'aime.
Merveilleux thème,
divin poème,
nous
aimons.
Tous ceux qui sont gentils, tous ces amants sont charmants, ils s'aiment.
Ma bien-aimée, ce fut pas un beau soir de mai quand je t'ai
fait. Et pour bonheur, que nos cœurs étaient à l'armée.
Tout nous disait, aimer.
Un long baiser unit nos âmes.
Enlacés, nous surpris le jour.
C'est ainsi que nous aimons.
Amour.
Divin poème,
nous aimons.
Doute cruel, triste pensée, un jour c'est plus d'une même.
Moi, cesser de t'aimer,
jamais,
dans mes bras doucement, merci, au blonde péange adoré, jusqu'à la mort, je t'aimerai.
Bien que tout passe, tout lance, le Dieu des constantes amours avait voulu que je t'aimasse toujours.
Yeah.
un merveilleux extrait de Malvina. On a reconnu notamment la voix de Jacques Janssen et toute la troupe de Radio Lyrique. Reynaldo Hahn, on en reparlera souvent ici, mais je vous recommande en attendant donc de lire Reynaldo Hahn, un éclectique en musique sous la direction de Philippe Blais, un important et passionnant volume qui est paru aux éditions Actes Sud. Et puis donc, si vous avez l'occasion d'aller à Rochefort les 3 et 4 mai prochains, vous pourrez enfin découvrir l'île du rêve au théâtre de la Coupe d'Or à Rochefort, dans cette production qui est supervisée par Philippe Blais. Voilà une œuvre idylle polynésienne de Reynaldo Hahn à redécouvrir en ce printemps.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et puis tiens, pour rester un tout petit peu dans l'actualité musicale, je vous signale que la jeune compagnie des frivolités parisiennes présente depuis quelques jours et encore mercredi prochain le Farfadet d'Adolphe Adam, un délicieux petit opéra comique qu'on peut voir à Paris au théâtre de Trévise. C'est mercredi à 20h, j'adore cette œuvre où il est beaucoup question de la superstition justement des Farfadets. Tiens, écoutons juste un petit extrait qui vient lui aussi des archives de Radio Lyrique.
Je n'aime pas tous ces caquets de revenants de Farfadet.
Comment tu crois à ces caquets de revenants de Farfadet?
Ce vieux moulin est fait exprès pour les lutins des Farfadet.
Point de discours, c'est ridicule. Obéis-moi, songe à ma mule.
Oh non, ne me dis pas du mal. J'y vais, mais j'ai bien peur. Ce vieux moulin dit ce que tout le monde ne va faire. N'a vraiment que de quoi vivre ici sous le coucou carrage.
Oh,
ce moulin dit ce que tout le
monde
ne va faire. N'a vraiment
que de quoi vivre ici.
Et voilà, ils s'en passent des histoires parce que c'est l'opéra comique, ça discute, ça parle, ça chante, c'est merveilleux. C'est le Farfadet d'Adolphe Adam au théâtre de Trévise le 13 avril prochain à 20h.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô la disco ?
Allô la disco ?
Allô la disco ?
Allô la disco ?
Et puis avant de retrouver Martin Péné, restons encore un instant dans les raretés de la discothèque de Radio France. Je vous ai ressorti aujourd'hui une œuvre de 1967 qui s'appelle Petit Patapon. Oui, c'était un spectacle musical du regretté Jacques Martin qui adorait l'opérette, la comédie musicale, etc. Et il a donc gravé en disque chez Barclay, bah voilà, l'ensemble de ce spectacle avec Jean Bezouroff. Je vais vous faire écouter une petite plage chantée bien sûr par le grand Jacques. Ça s'appelle « À 4h du matin ».
À 2h du matin, nous étions de chez moi, les lumières tamisées devant la cheminée. La fille à moitié nue me dit: chérie, j'ai froid, viens donc me réchauffer. C'était gagné pour moi. À 3h du matin, arrivent trois copains me disent: mon petit père, on vient faire un poker. Les potes, excusez-moi, il y a une fille dans le salon. Ils répondent: ça gêne pas, elle comptera les jetons. À 4h du matin, j'entends comme un bousin. C'était mes musiciens, gelés comme des coins. Mon pote, excuse-nous, on est comme des fous. On vient de trouver un air, écoute ça mon petit père. À 5h du matin, t'aurais vu les voisins. Le concierge est monté, on le sentait crispé. Je sais plus ce qu'il a dit, mais ce fut la mêlée. Les flics arrivent dans le tas, tu parles d'une java. À 6h du matin, nous étions tous autour. Les flics aux petits soins sont occupés de nous. Ils allaient se calmer quand
un voisin s'écrie, la police est pourrie, ils ont recommencé à 7h du matin. Je suis rentré chez moi, et qu'est-ce que j'ai trouvé? Dormant sur les gravats, la môme déshabillée qui me tendait les bras et qui me dit que
Jacques Martin qui chantait à 4h du matin dans sa comédie musicale Petit Patapon, un 33 tours Barclay qui vient bien sûr donc des archives de la discothèque de Radio France. Et d'une rubrique à l'autre, nous passons sans plus attendre à la chronique. Aujourd'hui, c'est Martin Péné qui est avec nous. Bonjour Martin.
Bonjour Benoît.
Pour nous parler de Musette.
Oui, évidemment, le prétexte de tout ça, c'est qu'il y a 20 ans disparaissait Joe Privat, cet éminent accordéoniste que vous aimez tant, Benoît.
J'en ai dit d'ailleurs un mot la semaine dernière.
Et moi aussi, bien sûr, je l'aime, et auquel l'ami Claude Dubois, spécialiste de l'histoire du Paris populaire, a consacré une biographie en 2013. Et il était venu d'ailleurs vous en parler à ce même micro.
Bien sûr,
Benoît.
J'ai même connu le cher Jojo au Balajo.
Qui, voilà, c'était sa maison, le Balajo de la rue de l'Arbre, dont il a été le pilier durant 50 ans, imaginez, de 1936 à 86. Et bien sûr, l'établissement lui a rendu hommage en célébrant cet anniversaire, comme il se doit, samedi dernier, avec la chanteuse Muriel, donc, qui était sa compagne à la fin de sa vie, et Joe Privat Junior, le fils de Joe Privat. Et vous y étiez, bien
heureux. Oh, j'y étais parce que, moi, vous savez, j'aime tellement cette ambiance musette, ces couples qui dansent la toupie dans le décor du Balajo, c'est toujours féerique. J'ai un peu regretté qu'on n'ait pas invité, voilà, un peu la crème des accordéonistes aussi pour rendre hommage à Joe en jouant un peu son répertoire, mais en tout cas voilà.
Faudra essayer de l'organiser.
Il y avait une ambiance d'un monde malheureusement un petit peu disparu aujourd'hui.
Que je vais évoquer aujourd'hui. Donc Joe Privat, et ben c'était un enfant de Ménilmontant, il en avait gardé le langage fleuri. Et c'est vrai qu'il n'avait pas son pareil pour trouver des surnoms assez imagés pour tous ses amis. Et il aimait s'entourer de guitaristes manouches. C'est comme ça qu'il a côtoyé au début de sa carrière les frères Ferré et bien sûr à l'occasion de Django Reinhardt. Et c'est pourquoi d'ailleurs lui-même on le surnommait le Gitan Blanc. Alors il a su mêler différentes influences musicales, le musette, le manouche, le jazz américain. Il a composé plus de 500 titres, surtout des valses musettes, des très belles valses musettes. Alors en voici une, plutôt de la fin de sa vie, Paris en musique, chantée justement par cette fameuse Muriel.
Elle s'accroche à vous, elle vient de partout, elle va n'importe où, elle touche à tout. Elle est millénaire, elle est populaire, sans en avoir l'air, elle envahit tout. Arrogante, insouciante, exaltante, insolente, elle est sans pitié, elle vous fait rêver, chanter ou danser, rire ou bien pleurer. Un air de saxo dans le métro, Paris musique. Un accordéon, mille violons, Paris musique. Les flonflons du bal, la rue des Halles, Paris musique. Une valse à l'endroit, une diva de l'opéra. Comme elle est tenace, elle vous agace, et puis vous tracasse, et fait volte-face. Mais quand elle s'en va, par-dessus les toits, elle vagabonde à travers le monde. Bohémienne, patricienne, faubourienne, quelle aubaine. Elle est toujours là, vous prend par le bras pour vous faire danser, rire ou bien pleurer. Un harmonica, la traviata, Paris.
Muriel, la chanteuse inséparable de Joe Privat, en tout cas dans les dernières années. Là, c'était en 1992, ça s'appelle Paris en musique, mon cher Martin Péné. Alors, vous nous parlez d'accordéon, donc, aujourd'hui, c'est
je
ça?
Je parle d'accordéon, et puis en fait, c'est surtout de chanteuse musette.
Ah,
parce
voilà.
Que c'est ça, ça m'a donné envie de tirer un coup de chapeau à toutes ces chanteuses, parfois un peu oubliées, dont l'histoire remonte finalement au milieu des années 20, avec des pionnières que furent Emma Liebel, Germaine Lix, et puis bien sûr, surtout Fréhel. parce qu'elles ont introduit sur les scènes de musicals un répertoire spécifiquement musette, des chansons inspirées par l'univers de ses premiers bals. Mais bon, à cette époque, les musiciens qui les accompagnent sur disque sont presque toujours anonymes. Alors donc, il faut attendre que l'engouement se déploie au début des années 30, lorsque l'on voit apparaître des chanteuses vraiment musettes au service de musiciens renommés. Donc quasiment tous les disques à l'époque étaient faits pour danser, hein. C'est ça qu'il faut bien se mettre en tête. Et donc elles interviennent pour agrémenter les morceaux, soit d'un refrain, soit carrément de la chanson en entier. Et puis elles allaient chanter donc avec ces orchestres dans les bals de quartier populaires de la capitale. La Java, Bousca, Le Tourbillon, Le Petit Balcon, Le Petit Jardin, et puis bien d'autres, il y en avait vraiment des dizaines à l'époque. Et ces établissements sont quasiment tous disparus dans les années 50 à 70, bien sûr, victimes du changement des modes musicales et des pratiques de danse. Alors il en reste quelques-uns, il reste le Balajo, rue de l'Ape, la Java, rue du Faubourg du Temple, le Tango, rue Homer.
Sauf qu'on n'y danse pas beaucoup la Java.
Ben non, ils ont dû s'adapter au public actuel. Alors pour restituer l'ambiance de ces bals d'avant-guerre, j'ai retrouvé un merveilleux témoignage enregistré en 1932 par une chanteuse un peu oubliée mais qui s'appelait Germaine Beria.
En casquette, les mains dans les poches, c'est au bal, ce n'est pas ailleurs. De que s'en vont chaque soir les gavroches, en peinard, mais en connaisseur. Préférant aux plus chic talasses, les petits bals musettes du faubourg. Que ce soit Bousca ou bien la Java, le petit balcon ou le tourbillon. Dans les belles musettes de Paris, tout comme dans un vrai paradis, on danse en chichi sans façon, charmé par le doux son d'un chouette accordéon. Avec les copines, les copains, en douce on fait des petits béguins, et comme séduit, on danse sans répit dans les belles musettes de Paris. On y voit de gentilles midinettes, puis aussi des petits boulots qui fument tous la cigarette, attablés devant un diabolo. Quand l'orchestre joue la ritournelle, il faut voir les coupes s'enlacer. Valser Java fond de l'affaire du patron qui crie l'air mauvais. Allons là les fauchés, la passe sur les volets. Dans les belles musettes de Paris, tout comme dans un vrai paradis, on danse en chichi sans façon, charmé par le doux son d'un chouette accordéon. Avec les copines, les copains, en douce qu'on fait des petits béguins, et comme séduit, on danse sans répit dans les belles musettes de Paris. Et comme tout ce qui devient populaire.
Germaine Beria en 1932 avec les Vagabonds Mélomanes dans les musettes de Paris, une de ces chansons musettes qu'on connaît encore un peu aujourd'hui à travers Fréhel, mais dont vous nous parlez avec des figures moins connues aujourd'hui, Martin Péné.
Oui, parce que je trouve que c'est l'occasion de redécouvrir un peu certains personnages qui ont fait les grandes heures de ces belles musettes. Et à présent que le décor est planté, eh bien je vous propose d'en redécouvrir une autre. Maggie Fred, une vraie chanteuse de bal de faubourg, accompagnée par des musiciens du cru. Et c'est le témoignage quasiment en direct du bal du Tourbillon qui était situé rue de Tanger avec un accordéoniste chevronné de l'époque, Albert Carrara, son inséparable banjoïste, vous allez l'entendre, auquel s'adjoignait aussi parfois une batterie sommaire pour marquer davantage le rythme et entraîner les danseurs. Alors les musiciens et la chanteuse, imaginez le décor, étaient perchés sur une sorte de balcon. Et ça, c'était pour deux raisons. D'abord, ça dégageait un peu plus de place pour la piste de danse. Et puis aussi, ça les mettait à l'abri des éventuelles bagarres. Parce qu'il faut bien dire quand même que l'ambiance des belles musettes était parfois assez chaude. Alors Maggie Fred, elle a vécu une relation un peu houleuse, même très houleuse, avec un chanteur musette nommé Galliardin, parce qu'il y avait aussi des hommes. Et donc chacun de leur côté ont enregistré une dizaine de phases de 70, des dizaines même de phases de 78 tours au début des années 30, chez la même maison de disques, jusqu'au triste jour de novembre 34, où ils ont péri dans l'incendie de la guinguette qu'ils avaient ouvert à Villeneuve-le-Roi en bord de Seine. Alors imaginez voilà, les faits divers du petit monde de la chanson. Alors on écoute Maggie Fred dans Rien ne vaut tes lèvres, 1930.
Des jours où l'on semble moins. frémir de désir. Rien ne vaut tes lèvres, tes jolies lèvres, pour dire à mon cœur les mots d'amour vainqueur. Car sous la fraîcheur de ta caresse exquise, mon âme grise se sent reprise. Et pour m'accompagner, on s'assoit de moi, tu sais calmer ma fièvre. Car vois-tu tes lèvres, c'est tout pour moi.
Maggie Fray dans 1930 avec banjo et donc Albert Carrara, le frère d'Émile.
Le frère aîné, oui.
À l'accordéon, Martin Péné.
Et donc parmi les vedettes de l'accordéon des années 30 qui ont beaucoup enregistré, on peut citer entre autres donc Albert puis Émile Carrara, les frères Péguri, Jean Vessade, Maurice Alexander, les frères Médinger, Adolphe Deprince, Émile Prudhomme. Et puis après il y en aura encore plein d'autres bien sûr, mais là on déborde un petit peu les années 30. Et le plus populaire finalement c'était Fredo Gardoni qui accompagnait le Tour de France et d'autres courses cyclistes comme les 6 jours au Vélodrome d'hiver. Et son chanteur attitré se nommait Jean Cyrano. Et alors la discographie de Fredo Gardoni et Jean Cyrano chez Pathé est monstrueuse.
Je pense qu'il y a de mieux dans l'accordéon.
Ah non, mais bon, c'était très très populaire. Mais eux, je ne jouais pas dans les balles. Hein. Voilà, eux, étaient pour les grandes fêtes cyclistes notamment. Alors par contre, une qui a très peu enregistré, et je vais terminer cette chronique en lui rendant hommage, c'est Lynn Viala, qui n'était pas à proprement parler une chanteuse de bal, mais elle appartient sans conteste au genre musette, car elle avait la particularité de s'accompagner sur scène à l'accordéon, touche piano. Et donc, elle avait une formation de pianiste au conservatoire, mais bon, elle avait un certain esprit d'indépendance, et finalement, ça l'a conduit à se lancer dans le music hall. Et sa période de succès, assez brève, se situe à la fin des années 30. Elle a lancé des chansons très imagées, comme La guinguette au vin, La fête foraine, Accordéon. Elle a tourné un film en 1939, Le café du port, de Jean Chou. Et malgré sa modeste discographie, bah, je trouve qu'il faut vraiment la redécouvrir, parce qu'elle est formidable. Et donc, on va se quitter avec La guinguette au vin.
Tous vers la scène en chantant. Et les berges éclatent de rire sous l'effet du vin tout bon. Les poissons en valsant vont frir dans le petit caboulot. Un accordéon nostalgique monte libre vers le ciel. Et des bons pêcheurs alcooliques pêchent de rondes soleil. Le vin coule dans les maisons, les gâteaux, les buissons, et c'est la divine saison. La chanson des bouchons, ça tourne dans les guinguettes, les buvettes, les musettes. Le vin coule sous les ponts, même sous les jupons. Versant des rêves fleuris, connaît les histoires touchantes des vrais amours de Paris. Combien d'étreintes trop serrées dans un grand adieu brutal laissent des âmes chavirées dans un petit coin du bal. Combien de romans du dimanche finiraient au monde long. Le vin dont la valse penche, rythme des aveux nouveaux. Le vin coule dans les maisons, les gazons, les buissons, et c'est la divine saison. La chanson des bouchons, ça tourne dans les guinguettes, les buvettes, les musettes. Le vin coule sous les ponts. Même sous les jupons.
La guinguette au vin par Lynn Viala en 1937. Voilà, merci Martin Péné pour cette évocation des chanteuses de musette avant-guerre. Voilà, il y en a eu d'autres après d'ailleurs.
Il y en a eu, oui, après la guerre jusqu'aux années 50-60. Alors si vous voulez que je vous en parle, ce sera avec plaisir.
Ah ben voilà, la prochaine fois, banco.
Très bien, et ben bon week-end.
À bientôt Martin. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Pauline Boisaubert avec à la technique Jean-Paul Lafavergès, entouré de François Pron, Thibaut Gouffier, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec mon invité Perrette Souplex. Voilà, bon week-end à tous sur France Musique.